Oui, je suis Alexandre Monin, je suis enseignant-chercheur, philosophe et co-initiateur du courant de la redirection écologique.
Voilà, donc vous intervenez un peu partout en France. Ici, vous êtes dans le bassin minier à Lens, l'ex-bassin minier, qui a beaucoup évolué aussi par rapport à il y a 60 ans. Donc vous avez projeté au public tout à l'heure une image très puissante, très catastrophiste du monde de l'industrie, des cheminées un peu partout, une grosse pollution. Bon, évidemment, ça a changé du moins dans notre région.
Alors oui, j'ai présenté effectivement l'image d'une cheminée parce que une des caractéristiques de la redirection écologique, c'est effectivement de se pencher sur nos héritages infrastructurels, nos héritages techniques, nos héritages aussi organisationnels, juridiques, etc., etc., en se posant la question de savoir si demain on va pouvoir maintenir exactement nos modes de vie ou s'il va falloir éventuellement aménager justement ces héritages, nous projeter vers d'autres modes de vie et donc voilà, savoir qu'est-ce qu'on fait de ce dont on hérite, vers quoi on se projette, et éventuellement, est-ce qu'on procède à des arbitrages, à des arrêts, à des fermetures. Mais contrairement à l'exemple que vous avez pris dans le passé, ici, en fait, c'est une question qui peut se poser dans tous les domaines d'activité, puisque tous sont concernés par les transformations qui vont être induites du fait du changement climatique, de l'anthropocène, du franchissement en cours des limites planétaires, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, qui va avoir une incidence sur toutes nos activités et en fait sur nos modes de vie en général.
Actuellement, on sent quand même une impulsion pour changer notre modèle de développement, pour qu'il devienne plus vertueux. Alors, ça peut prendre des chemins différents selon les activités, les secteurs économiques.
Alors oui, tout à fait. Alors à la fois, il y a cette impulsion, même si en ce moment, on est aussi dans une période un peu, comme on le dit, de backlash écologique. Donc il y a un peu cette rencontre entre cette impulsion qui a été lancée au cours des dernières années en particulier, pas seulement bien sûr, mais notamment au cours des dernières années, et puis pas mal de recul, malheureusement, en cours du fait de la situation internationale. Donc c'est une période assez complexe et c'est assez difficile justement de savoir quels vont être les équilibres qu'on va retrouver, si on retrouve des équilibres, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période assez chaotique, donc qui risque malheureusement de durer.
Donc pendant votre exposé de ce matin, masterclass, alors vous appelez ça classe de maître, il y avait un public qu'on entend un petit peu derrière là, qui était très sensible à vos propos et qui a aussi fait remonter un certain nombre de réflexions.
Oui, tout à fait. Donc j'ai présenté un petit peu les grands principes, je dirais, de la redirection écologique, notamment autour de la notion d'attachement, qui est une notion très importante. Si on pose des enjeux d'arbitrage, d'arrêter de faire un certain nombre de choses, voire de renoncement, pas du tout en un sens moral, hein, je le précise immédiatement, ça veut dire aussi que pour faire ça, il faut prendre en considération les attachements des personnes qui vont être affectées par toutes ces transformations qui vont être éventuellement induites volontairement ou parfois involontairement, hein, du fait aussi la transformation des milieux qui va avoir un impact sur nos activités et nos modes de vie. Et donc voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire ressortir ces attachements, c'est-à-dire ce à quoi on tient et ce qui nous tient, selon la caractérisation d'Antoine Lignon, qui est un sociologue qui a beaucoup travaillé cette notion d'attachement. Et c'est vrai que l'attachement, de ce point de vue-là, c'est un petit peu, comme je le dis souvent, la matière première de la redirection écologique. Si on ne sait pas qui est attaché à quoi et comment, on peut difficilement envisager, effectivement, de prendre des mesures pour transformer nos modes de vie sans affecter les personnes, sans, je dirais, mettre les pieds dans le plat, sans trancher dans le vif, sans avoir conscience, en tout cas, des dépendances des personnes et de la variété, finalement, des situations des personnes qui vont faire face à ces mesures, parce que toutes les situations sociales ne sont pas les mêmes, tous les corps ne sont pas les mêmes, etc. Ça. Donc si on veut vraiment traiter ces enjeux sur un mode juste, poser des enjeux de justice, justice sociale, justice environnementale, un des prérequis, je dirais, c'est précisément de cartographier, d'enquêter sur ces attachements et avec les personnes concernées.
Alors, les habitants de cette région Hauts-de-France, anciennement Nord-Pas-de-Calais, bassin minier, sont très attachés à leur territoire. Et on va dire que les décisions politiques ont sans doute, avec aussi le fait de tenir compte de leur attachement, fait imaginer qu'on pouvait transformer le territoire en lui conservant un peu son âme.
Alors oui, c'est vrai que c'est un cas qui est emblématique quand on pose ces questions. On pense tout de suite à la désindustrialisation, au fait d'avoir arrêté un certain nombre d'activités, même si vous l'avez dit, ce sont des activités qui ont été très largement déplacés dans d'autres pays, dans d'autres aires géographiques. Et donc, c'est à la fois un exemple, mais même si il y a eu des difficultés évidentes, qu'il y a eu tout un travail sur la mémoire, sur le patrimoine qui a été mené. Je pense par exemple au travail qui a été fait aussi avec l'UNESCO à Lens-en-Goël, qui est évidemment paradigmatique de ce côté-là, est tout à fait important. La différence avec la situation actuelle, cependant, c'est que là, on était sur un secteur donné et une ou plusieurs aires géographiques, mais données. Alors qu'aujourd'hui, ce qui empêche finalement d'imaginer que ça va être les mêmes solutions qui vont être appliquées demain, que ce soit souhaitable ou non, c'est que finalement ce sont toutes nos activités et tous les secteurs qui sont aujourd'hui confrontés à des transformations majeures. Comme j'ai dit dans la masterclass, en citant mon collègue Emmanuel Bonnet, il a eu cette phrase un jour en disant aujourd'hui, toutes les organisations ont leur neige. La neige au sens de quelque chose, comme dans les territoires de montagne actuels, qui est en train de fondre, qui est en train tendanciellement de disparaître et qui menace l'activité. Mais aujourd'hui, tous les territoires, toutes les organisations ont leur neige. Et donc, tout le monde doit se poser la question de ce que l'on fait demain, des activités qu'on va mener et rouvrir un petit peu la boîte noire à la fois de nos modes de subsistance, de nos modes de vie. Et là, pour le coup, c'est plus restreint à un territoire ou à une catégorie de la population.
Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le problème climatique qui fait que dans certains endroits, il y a des montées des eaux prévues ou en cours. Les phénomènes aussi de tempêtes, d'inondations, enfin, nous, on y a eu droit dans la région. Donc, certaines zones ne vont plus être habitables, donc ne seront plus habitées. Certains habitants sont priés de déménager, voire même de ne plus construire, ce qui est maintenant de plus en plus le cas. Donc, comment on appréhende auprès de ces personnes-là la question de changer de situation qui leur appartient directement au départ? Ils sont très impactés psychologiquement, philosophiquement, humainement.
Oui, absolument. Ça soulève des questions humaines assez abyssales. Alors, vous parliez effectivement dans le Nord, il y a eu les premiers réfugiés climatiques, d'une certaine manière, avec des personnes qu'on a déplacées là tout récemment. Il y avait déjà eu le cas à Miquelon, ce petit village qui avait été déplacé parce que il allait être submergé. Donc, il a été déplacé quelques centaines de mètres, mais ça a été quand même tout un travail et un accompagnement qu'il a fallu faire. Et ce ne sont pas des phénomènes nouveaux. Sur les côtes de l'Afrique, par exemple, dans certains pays, il y a aussi des phénomènes comme ça de submersion, et on sait dans ces cas-là que parfois on propose de reconstruire, c'est une solution possible, des habitations à l'intérieur des terres, et puis il y a des gens qui ne se voient pas vivre dans ces endroits-là et qui choisissent parfois de rester jusqu'au bout avec leur maison, quitte à être emportés avec celle-ci. C'est à la fois des tragédies, mais ça révèle aussi justement l'importance, la force des attachements des gens qui ne se voient pas vivre ailleurs. Donc oui, ce sont des situations malheureusement qui vont se multiplier et qui demandent un soin tout à fait particulier pour accompagner les personnes et puis aussi leur donner voix au chapitre par rapport aux solutions qui leur sont proposées pour l'avenir, ce qui est absolument fondamental.
Alors, moins de surface habitable, moins de surface constructible, peut-être aussi l'incidence sur comment se loger, dans quelles conditions?
Oui, c'est vrai que c'est une question importante. La question du logement, on sait que le logement en général et les activités de construction sont des activités par ailleurs particulièrement émettrices de CO2, mais aussi de déchets. Donc c'est un domaine sur lequel il faut se pencher tout particulièrement. On sait qu'il y a également une crise du logement, qu'il y a une difficulté à se loger avec des prix de l'immobilier qui font que c'est compliqué pour toute une partie de la population et qui en même temps ces pressions supplémentaires, vous l'avez dit, concernant notamment l'accès au foncier, puisque il y a un enjeu aussi avec la loi ZAN de limiter les possibilités d'artificialiser à l'échelle des collectivités qui ont longtemps vécu finalement sur cette manne, cette rente de l'artificialisation. Ben aujourd'hui, on ne peut plus traiter les choses de la même manière. Sinon, si on artificialise tout, de toute façon, on est tous morts. Donc, il faut aussi mettre un stop à tout ça. Mais ça veut dire effectivement, est-ce qu'il faut densifier les villes? Est-ce qu'il faut, au contraire, on a tout un ensemble d'auteurs qui nous appellent aujourd'hui à quitter les villes. Mais est-ce que quitter les villes aujourd'hui à 70 millions d'habitants en France, c'est pas refabriquer des petites villes? Parce qu'on ne va pas réinvestir des campagnes fantasmées qui ne sont plus les campagnes qu'on pouvait imaginer dans le passé. Donc ça pose effectivement des questions innombrables.
Avec des écarts sociaux qui risquent de se creuser?
Oui, tout à fait. Moi, je me suis particulièrement intéressé à la question notamment de l'avenir de la construction. Vous l'avez dit, il y a des territoires aujourd'hui qui ont été obligés de prendre des mesures pour arrêter la construction neuve par manque de disponibilité de l'eau. La question qui peut se poser, aller vers une économie non plus de la construction, mais de la réhabilitation et de la maintenance, c'est tout à fait intéressant. Mais est-ce qu'à terme, il n'y a pas une prime pour les personnes qui sont déjà propriétaires, voire multipropriétaires, est-ce qu'on peut maintenir le modèle de propriété privée tel qu'il existe aujourd'hui? Si demain on arrête de construire, est-ce que ça ne fait pas un privilège trop important pour les personnes qui sont déjà propriétaires ou multipropriétaires par rapport à celles qui ne le sont pas et que ça va attiser au contraire les inégalités? J'ai mon idée là-dessus, mais je laisse les auditeurs se faire la leur.
Alors, il y a aussi le problème des reconversions d'entreprises et même de secteurs d'activité entiers. Comment on peut y préparer les personnes qui vont devoir changer de métier, en quelque sorte?
Oui, c'est un véritable enjeu. Comme on l'a dit, en fait, ce sont tous les secteurs aujourd'hui qui sont concernés et ce ne sont pas des questions qui concernent uniquement les copiles, les comex ou les directions d'entreprise. En réalité, ce qu'il va advenir de l'emploi et plus largement du travail des salariés, des travailleurs et travailleuses en général, c'est une question qui se pose finalement à tout un chacun, à toute une chacune. Et il y a des initiatives, une à laquelle je participe notamment, qui a été montée par Lionel Descamps et Paul Bicky, que je rends hommage parce qu'elle est récemment décédée, l'initiative de sécurité sociale de la redirection écologique, notamment porté par le réseau Salariat, l'Institut Rousseau et d'autres acteurs, les Shifters d'Aix-Marseille, entre autres, qui visent justement à outiller les salariés, les travailleurs et travailleuses qui souhaiteraient changer d'emploi et avoir une sécurité sociale qui leur permette de changer d'emploi si ils ou elles considèrent que leur emploi est écocidaire, par exemple, et ne va pas dans le bon sens du point de vue de l'environnement, voire si c'est un emploi qui est condamné ou qui devrait l'être. Quelles garanties sociales on pourrait avoir pour changer d'activité, et puis qui essaye aussi de faire porter une voix, la voix des travailleurs et des travailleuses, concernant l'avenir de leur outil de production, c'est-à-dire demain. Sans doute que l'activité va changer. Certaines activités, on sait, ne sont pas pérennes ou ne devraient pas l'être. Et donc, comment est-ce qu'on peut associer la voix des salariés au fait de réfléchir à ce que l'on pourrait faire de leur activité? On a déjà des ouvriers dans le domaine de l'énergie, sur les plateformes pétrolières, qui disent, notre activité ne doit pas être pérennisée, ne doit pas durer, parce que, effectivement, maintenir des plateformes pétrolières à l'avenir, ce n'est pas forcément souhaitable. Par contre, nous voulons être partie prenante du démantèlement de cette activité et du remantèlement, si on peut dire, d'un autre système énergétique en France. Donc, c'est une manière finalement de se réapproprier la question de la production, le devenir de l'outil de production en associant des garanties sociales et puis des enjeux environnementaux et en rebasculant sur des activités qui soient des activités plus viables à l'avenir. Donc comment est-ce qu'on arrive à encourager au sein des organisations un débat qui ne peut pas être confiné uniquement à l'intérieur des directions mais doit concerner tous les salariés qui voient bien que leur outil de travail ou leur métier est en train de changer et qui ont leur mot à dire concernant ce changement.
Donc peut-être cela demandera beaucoup de mobilité intellectuelle, peut-être géographique aussi.
Alors, géographique, si il n'y a pas un accompagnement, parce qu'effectivement, on peut imaginer que les personnes laissées elles-mêmes soient obligées de se relocaliser ailleurs. Par contre, si on imagine qu'il y a un accompagnement plus collectif qui permette justement de faire rebasculer l'activité vers des activités plus pérennes à l'avenir, peut-être que ça permettrait de maintenir d'autres emplois dans les territoires, et donc de permettre aux gens de ne pas forcément comme ça migrer et d'être livrés à la concurrence du marché du travail. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette envie d'aller sur des réponses collectives pour collectivement questionner le devenir des organisations et permettre encore une fois aux salariés qui ont leur mot à dire, parce que salariés et travailleurs et travailleuses voient ce qui fonctionne, voient ce qui dysfonctionne aussi au sein de l'organisation, et bien d'être partie prenante d'une réponse à la question qu'est-ce qu'on produit demain, pour qui, pourquoi, à quelles conditions, ce qui est aussi un des lieux où on peut poser les enjeux de l'écologie aujourd'hui.
Donc dans ces domaines d'évolution, de réflexion, d'analyse et de décision, est-ce que la France est plus ou moins bien placée en Europe, voire dans le monde ?
Alors, c'est une bonne question. Je dirais qu'en tout cas, je pense qu'il y a un fourmillement de réflexion. Je ne sais pas si on est plus vertueux que les autres. Par contre, on se pose beaucoup de questions en France du fait de différents acteurs, de différentes initiatives. Et effectivement, c'est une force sur laquelle il faudrait s'appuyer.
Merci.
Merci beaucoup.